7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Éducation, comme chaque vendredi en effet aujourd'hui. Un sujet qui va peut-être vous surprendre, la philosophie pour enfants dès l'école primaire. Ça peut sembler complètement décalé par rapport aux priorités de l'éducation actuelle. Et pourtant, dans plusieurs pays, depuis plusieurs années, des expériences d'ateliers philosophiques se multiplient. Et les enseignants qui assistent à ces ateliers menés par des spécialistes de philosophie pour enfants disent qu'ils redécouvrent leurs élèves, que la hiérarchie de la classe s'en trouve inversée. Alors comment parler de la morale, du divertissement, de la mort avec des enfants de 10 ans? Et surtout, pourquoi faire? Faut-il trouver une utilité à la philosophie? C'est une discipline où il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison, mais des chemins pour apprendre à des enfants, y compris de milieux modestes, à devenir des citoyens libres qui pensent par eux-mêmes. Cette émission est aussi un hommage au philosophe Michel Serres qui nous a quittés et qui savait si bien philosopher pour nous tous à notre portée. Je vous présente nos invités. Edwige Chirouter, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe à l'Université de Nantes. Vous êtes aussi titulaire de la chaire UNESCO, pratique de la philosophie avec les enfants. Je ne savais pas qu'il y avait une chaire UNESCO sur ce sujet.
Elle était parrainée par Michel Serres.
Exactement.
C'était notre parrain, regretté parrain.
Vous avez publié Atelier de philosophie à partir d'albums de jeunesse chez Hachette. Également avec nous, une jeune philosophe, Johanna Hocken. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, donc la philosophie pour enfants expliquée aux adultes, aux éditions du temps présent. C'est vraiment le récit de toute une expérience pour mettre la philosophie à portée des enfants, puisque vous animez depuis une dizaine d'années des ateliers de philosophie à Romainville. C'est devenu d'ailleurs maintenant, il y a une maison de la philo à Romainville, dans le département de Seine-Saint-Denis, cette maison qui vient d'ouvrir ses portes, mais vous avez commencé à l'école. On sera aussi en ligne avec un enseignant au Burkina Faso, Évariste Magloire Yogo. Il est formateur en nouvelles pratiques de philosophie avec les enfants, et vu le contexte actuel de l'école dans ce pays en conflit, il a des choses à nous dire. Il est enseignant-chercheur aussi à l'université de Ouagadougou. Voilà, je vous rappelle notre numéro de téléphone si vous souhaitez intervenir sur ce sujet. Philosopher dès l'école primaire pour les enfants, pourquoi faire? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71 pour nous poser toutes vos questions, y compris les plus étonnées, puisque l'étonnement est au centre de la philosophie. C'est aussi notre numéro de téléphone WhatsApp pour nous laisser des messages. Un message qui a été posté sur Facebook par une internaute à Yaoundé au Cameroun qui pose cette question, mais comment expliquer ce que nous-mêmes, adultes, avons du mal à comprendre? Sous-entendu, comment faire avec les enfants? On va apporter des éléments de réponse à cette question. Voilà, je vous rappelle notre numéro 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on dit quoi?
La philosophie à l'école primaire, ça ressemble à quoi? On parle de quoi avec les enfants? Réponse avec le reportage d'Alice Milo. Elle s'est rendue dans un atelier d'initiation ludique, les Petites Lumières, à l'école démocratique, dans le 19e arrondissement de Paris. Chiara Pastorini, philosophe, formatrice en philosophie avec les enfants, anime ses rencontres depuis 5 ans.
Eh ben, on commence alors. Je vous propose d'abord de passer ce petit Socrate, qui est considéré comme le premier philosophe, se poser beaucoup, beaucoup de questions. Est-ce que vous avez des exemples de questions philosophiques?
Qu'est-ce que c'est exactement la mort et la vie? Qu'est-ce que c'est la liberté? Qu'est-ce que ça veut dire grandir? Quelle est la différence entre le bien et le mal? Y en a-t-il vraiment une, etc.
Donc aujourd'hui, les enfants, on va faire un petit peu comme des petits Socrates et on va se poser une question. La question du jour est, la liberté, c'est quoi?
La liberté, c'est quelque chose qu'on a envie de faire mais qui ne dérange pas les autres.
Et est-ce que tu as un exemple de situation où tu t'es senti libre?
Je trouve que je suis libre quand je fais, par exemple, du trampoline, comme si je volais un peu.
À l'école avec mes copines et qu'il n'y a pas mes parents, je me sens libre.
Il y a un paquet de bonbons sur la table, imaginons, et j'ai envie de le prendre. Et mes parents, ils m'ont dit que je peux le manger parce que c'est mon anniversaire. Bah là, je peux le manger et c'est libre.
Donc là, c'est une forme de liberté qui est en lien avec la transgression de la règle, c'est ça?
Oui, en quelque sorte.
D'accord, merci. Alors, les enfants, je vous pose une autre question. Est-ce que vous pensez que les enfants sont plus libres que les adultes? Ou bien vous pensez que c'est les adultes qui sont plus libres que les enfants?
C'est les enfants parce que, par exemple, les adultes, en fait, ils sont obligés de travailler.
Et pourquoi travailler pour toi? Pourquoi c'est une limite à la liberté?
Un travail, on ne peut pas faire non plus tout ce qu'on veut.
Je suis pas d'accord avec ce que vous dites parce qu'un enfant, quand vous dites qu'il est libre, bah lui, il est obligé d'aller à l'école, sinon il se fait gronder.
Aller à l'école, c'est un petit peu comme le travail pour les parents.
Ils travaillent à l'école et les parents, ils travaillent dans leur bureau, par exemple. Donc c'est la même chose, même si c'est pas la même sorte de travail.
Alors, on passe maintenant à une petite pratique artistique. On va faire un petit jeu, le jeu du portrait chinois. Vous allez plier cette feuille en quatre. Dans chaque partie, vous allez représenter la liberté déclinée de façon différente. C'est-à-dire, première partie, vous allez imaginer qu'est-ce que serait pour vous la liberté si c'était un animal. Deuxième case, si la liberté était une plante.
Si la liberté c'était un animal, ce serait une hirondelle parce que elle peut voler où elle veut, se poser où elle veut sur toute la planète. Si la liberté, ce serait un objet, ce serait une plume, parce qu'elle est libre de pouvoir voler dans le vent, de se poser sur une table ou par terre.
Pour moi, la liberté d'un animal...
Alors, si la liberté était un animal...
Ce serait le cheval parce qu'il peut galoper quand il veut. Si la liberté était une plante, ce serait la fleur parce que elle peut pousser à peu près où elle veut et elle peut grandir ou rester comme elle est si elle le veut. Si la liberté était un animal, ça serait une fourmi parce qu'elle est libre de pouvoir porter des charges et de ne pas en porter.
Mais où vont-ils chercher tout ça, ces enfants? Chiara Pastorini est aussi, qu'on entend dans le reportage, qui anime l'atelier de philosophie dans cette école du 19e arrondissement. Elle est aussi l'auteur d'un manuel pour les enfants, une année d'atelier philo-art qu'elle a publié chez Nathan. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler, les voisins et les voisines, pour poser vos questions. Philosopher à l'école primaire, est-ce bien raisonnable? 33 1 84 22 71 71. Edwige Chirouter, qui est philosophe et qui travaille sur ces concepts depuis une vingtaine d'années. Tout de même, d'où vient cette idée de faire pratiquer la philosophie à des enfants dès l'école primaire?
Déjà, c'est une idée qui est extrêmement ancienne, puisque Épicure disait déjà qu'on n'est jamais ni trop jeune ni trop vieux pour philosopher. Montaigne aussi parlait de philosopher avec des très jeunes enfants. Donc, dès la naissance de la philosophie, s'est posée la question de l'âge du philosopher. Alors, c'est vrai qu'à l'école, traditionnellement, depuis 150 ans, la philosophie n'est enseignée justement quand on n'est plus un enfant. À la sortie de l'adolescence, dernière année de terminale en France, dans les lycées français. Et c'est, disons, à partir des années 1970 que des philosophes, et notamment un philosophe américain qui s'appelait Matthew Lipman, a véritablement pensé ce que pourrait être un cursus progressif de l'enseignement de la philosophie avec les jeunes enfants. Et ça fait donc maintenant véritablement 40 années que ces pratiques se développent absolument partout dans le monde.
Mais avec quelle idée derrière la tête ?
Alors, plusieurs idées.
Pourquoi la philo ou pourquoi pas ?
Une idée déjà de démocratiser l'accès à cette discipline qui, de fait, est réservée à une élite. Donc, il y a une idée de démocratiser la discipline scolaire. Et puis, il y a un enjeu qui est profondément aussi politique. Philosopher, c'est apprendre à penser par soi-même. C'est former des citoyens éclairés. C'est œuvrer à une forme d'émancipation des sujets. Et donc, il y a un enjeu profondément politique au sens le plus noble du terme. Et c'est pour ça que l'UNESCO valorise ces pratiques aussi depuis le début, parce qu'il s'agit d'aider et d'être un levier pour la démocratie, pour le dialogue interculturel et pour la transformation sociale.
Vous le disiez, en France, la philosophie n'est enseignée qu'en terminale, et encore pas pour tous les élèves en bac professionnel. On considère que quoi? Ça n'intéresse pas les élèves ou ils n'ont pas le niveau?
On a plutôt tendance à considérer que pour véritablement vraiment philosopher, il faudra avoir un bagage intellectuel, culturel, linguistique, et que seuls, finalement, les jeunes qui ont accès au baccalauréat général et technologiques sont en capacité d'avoir aussi accès aux textes.
C'est,
c'est l'idée aussi qu'on ne peut véritablement philosopher que si on a accès direct à Kant, à Heidegger ou à Husserl.
Quand, vous dites accès, si on comprend les textes.
Oui, si on peut les lire directement.
Oui, ça, il y a
cette idée-là.
Donc
vous voyez, il y a plusieurs choses qui sont en jeu. Il y a à la fois une représentation de l'enfant. C'est-à-dire, l'enfant est-il capable de penser par lui-même ? Est-il capable d'être en prise avec le monde ? Ça, c'est une relation presque éthique qu'on peut avoir avec l'enfant. Et puis, il y a aussi une définition, qu'est-ce qu'on appelle philosopher ? Si philosopher, c'est avoir accès direct à Kant et Husserl, évidemment, des enfants de 4-5 ans n'en sont pas capables. Par contre, si philosopher, c'est se poser des questions que les hommes se posent depuis toujours, et qu'on va se poser toute la vie, comme l'amour, le bonheur, et donc la philosophie, elle commence avec l'étonnement, l'âge des pourquoi et des comment, alors ça veut dire qu'on commence à philosopher à 4 ans et qu'on ne s'arrête jamais.
L'étonnement qui est le propre de l'enfance d'ailleurs, Johanna Hocken.
Oui, tout à fait. En fait, on voit bien que c'est ça qui est marquant avec les enfants, c'est que leurs questions philosophiques, elles sont extrêmement justes. Et en fait, elles résonnent avec les questions de l'histoire. Pourquoi on existe ? Est-ce qu'on peut être libre alors qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut ?
Qui sont des questions qu'on ne se pose plus du tout, nous, en tant qu'adultes, au quotidien, très honnêtement.
Et ben, voilà. Justement, pour un adulte et pour un philosophe, l'enjeu, c'est de retrouver cette ce regard naïf et ce regard authentique au réel, ce que les enfants ont de façon naturelle parce qu'en fait ils se sentent un peu étranges voire étrangers dans monde qu'ils découvrent.
Naïveté ou distance avec le monde d'une certaine manière parce que l'enfant comprend qu'il est forcément un peu extérieur à la marche du monde.
Tout à fait, oui.
Il n'est pas encore avec les deux pieds dans le monde.
Oui, mais quelque part, ça lui sert parce que du coup, finalement, il remet en question ce monde, cette société, il remet en question les conventions, les habitudes, etc. Et du coup, on sent que dans l'atelier philosophique, ils ont finalement, là, un accès plus direct. On parlait de l'accès au texte. Mmh. Ils n'ont pas accès au texte, par contre, ils ont accès aux problématiques existentielles d'une façon très, très vive. Parce qu'ils ont aussi des expériences qui apparaissent. La première expérience de la colère, la première expérience de l'amitié, c'est très intense. Donc même s'ils n'ont pas une grande masse d'expériences, ils ont des expériences très signifiantes qui les interpellent.
Racontez-nous, Johanna Hocken, comment a démarré l'aventure de Romainville en Seine-Saint-Denis il y a tout juste 10 ans ?
Alors ça a démarré avec une bonne étoile, hein, comme souvent, c'était Karen Kowalski qui s'occupait d'un centre social donc en Seine-Saint-Denis et qui s'est dit que justement les enfants du centre social pourraient bénéficier d'ateliers philo parce qu'ils méritaient en quelque sorte d'apprendre à penser et d'avoir accès à ce patrimoine philosophique. Et donc j'ai postulé et j'ai été prise et puis après ça a essaimé tout au dans la ville, auprès des enseignants, des parents, des éducateurs. Et justement parce qu'en fait, dès qu'ils assistaient à un atelier philo, c'est comme si cette pratique philosophique, elle répondait à un besoin de sens. Un besoin de sens pour les enfants qui sont parfois un peu perdus dans ce monde international très complexe, avec une masse d'informations, d'images tout le temps autour d'eux. Un besoin de sens de la part des enseignants qui parfois sont confrontés à des problématiques éthiques, politiques. Et un besoin de sens de la part des parents qui savent pas comment répondre à ces grandes questions.
Ça veut dire que les adultes étaient autorisés à s'asseoir au fond de la classe pour assister aux ateliers ?
Oui, puis on fait toujours un partenariat avec l'enseignant ou l'éducateur pour vraiment aussi être calibré par rapport à ses besoins à lui, à ses élèves ou à ses enfants, enfin que ce soit toujours lié à ce groupe-là en particulier.
Quel étonnement ça a suscité et surtout quel enthousiasme aussi ça a suscité de la part des adultes ?
En fait, de la part des adultes, leur enthousiasme, c'est qu'ils redécouvrent les enfants. On l'évoquait. En fait, quand on les voit philosopher, on est frappé par une forme de sagesse, on les voit parler de choses, on les voit s'exprimer comme on ne les voit pas ailleurs. Ça rejoint aussi la question de la démocratisation de la philo, c'est-à-dire que des élèves en difficulté qui sont par ailleurs soit mutiques, soit exclus, soit dans des comportements rebelles, à l'atelier philo, ils sont autrement.
Mais en fait, ils parviennent à s'exprimer parce que souvent les enfants en difficulté scolaire, surtout à l'école primaire, il leur manque des mots. Et ça fait partie aussi de leurs difficultés.
Alors je crois qu'on se dit ça, cela, mais honnêtement, j'ai l'impression que c'est plutôt qu'ils sont paralysés face à la recherche de la bonne réponse. Ils sont dans ce régime de « on doit donner la bonne réponse qui va plaire à l'adulte
». Et vous, vous l'atelier dites qu'il n'y a pas de bonne réponse.
Bah, ce n'est pas qu'il n'y a pas de bonne réponse, parce qu'on ne peut pas dire n'importe quoi à l'atelier philo. On s'applique à penser, on s'applique à parler. Par contre, il y a une multiplicité de réponses possibles, et donc ça ouvre un espace de liberté pour tous les enfants, peu importe leur niveau scolaire, peu importe le milieu social dont ils viennent. Et donc c'est pour ça que certains enfants se révèlent à ce moment-là. Il y a vraiment un travail, hein. Il y a un travail sur l'estime de soi. Ça a été démontré par des recherches justement autour de l'équipe de Matthew Lipman. On voit que ça accroît leur estime intellectuelle d'eux-mêmes. Ils se découvrent comme êtres qui pensent et ils découvrent aussi que leurs paroles, ça a du sens pour les adultes. Ça fait réfléchir les adultes. Donc c'est très valorisant.
Alors ces ateliers se sont étendus dans la municipalité de Romainville parce que le succès a été quand même assez fulgurant. Comment se déroulent les séances ? Il y a des rituels ?
Oui, il y a énormément de rituels. Vu que c'est des enfants et que c'est une pratique éducative, on essaye de théâtraliser, de sensorialiser, j'ai envie de dire, tout ce qui se passe en philosophie. Donc on a une posture pour penser. C'est un moment où on se détend, on se calme, on se met bien dans son corps.
Mais on est assis comment dans la classe ?
Alors on essaie d'être bien assis, on met une lumière tamisée, on met le dos sur le dossier.
Mais on est derrière son pupitre d'école ?
Non, on est en cercle. On s'assoit toujours en cercle en atelier philo. C'est aussi symbolique du fait qu'on est tous égaux face aux questions philosophiques. Et donc, il n'y a personne qui est devant, derrière. Il n'y a pas le premier rang et le dernier rang. L'adulte aussi est dans le cercle, parce que lui aussi, il cherche les questions. Il cherche les réponses. Il n'a pas les réponses au départ. Donc, on est vraiment assis en cercle. On a des moments où on pense. On fait le silence. Et pendant une minute, deux minutes, on pense.
C'est ça. Alors, vous donnez le sujet. Et après, vous dites 1, 2, 3, pensez.
Oui,
alors à l'impératif.
Oui, impératif. Après, c'est un impératif bienveillant. Hein. On est toujours dans
les
démarches.
Et donc là, on met sa main sur le front.
Alors, on met les deux mains autour du cerveau pour sentir que le cerveau, que l'esprit chauffe et produit des idées belles, nouvelles. Et puis, on laisse le temps à chaque enfant de trouver une idée. Donc, j'attends de voir que ça apparaît, des idées, dans l'esprit de tous les enfants. Mm-hmm. Donc là aussi, c'est plus le premier qui lève la main, le premier qui a la réponse. On se déplace dans la relation au savoir. Ouais.
Et comment circule la parole ?
Alors il y a deux façons, soit on fait passer le totem de la parole, donc c'est comme un bâton de parole qui passe de main en main, très tranquillement. Il symbolise le droit de parler. Quand on tient le bâton de parole, on a le droit de parler, tout le monde doit nous écouter. On peut choisir de ne pas exercer ce droit, mais on a le droit. Certains ne parlent qu'à ce moment-là d'ailleurs, pas quand il faut lever la main. Et donc on fait passer le bâton de parole, ou alors parfois on échange de façon énergique, interactive, à la volée. Hein.
Certains enfants, quand ils ne sont pas d'accord avec un camarade, disent, comme on dit dans la cour de récré, n'importe quoi, c'est ça là. Mmh. Et là vous dites, ah non, n'importe quoi, on n'a pas le droit de le dire.
Non, il y a vraiment ça vient de Matthew Lipman aussi, il y a un principe de soin. On prend soin les uns des autres à l'atelier philo, on le dit, on va prendre soin de nos idées, des idées des autres, c'est-à-dire qu'on s'écoute, on ne porte pas de jugement négatif sur l'autre, ce qui ne veut pas dire qu'on enlève le désaccord. D'accord, au contraire. En philosophie, le but, c'est de découvrir les différences, de voir qu'on a une pluralité d'enfants, de points de vue. Par contre, c'est avec des principes de respect, de soins d'interrelation.
Edwige Chirouter, comment sont choisis les sujets ? Est-ce qu'il y a des sujets adaptés aux enfants pour la philosophie ou justement vous refusez cette notion d'adapter les sujets ?
Je pense vraiment qu'il n'y a pas de sujet spécifique aux enfants, que les enfants très très jeunes peuvent se poser des questions de façon universelle. En plus, avec la chaire UNESCO, c'est vrai que la chance qu'on a, c'est de pouvoir avoir des expérimentations qui se passent avec des enfants du monde entier. Et moi, ce qui me touche le plus, c'est que vraiment, au-delà de toutes les différences particulières, les enfants se posent les mêmes questions. L'amour, la liberté, la justice, grandir, le bonheur, le bien, le mal. Voilà. Mmh. Et que ces grandes questions, elles vont nous traverser toute la vie. C'est ça aussi l'objectif des ateliers philo, c'est de faire comprendre aux enfants que ces questions, ils se les posent légitimement, ils ont le droit à 4 ans, à 5 ans, à 6 ans, à 10 ans, de se poser ces questions-là, parce qu'ils font partie de l'humanité, et que c'est une des grandes dignités de l'humanité, justement, de se poser ces questions-là, que ces questions-là, elles se posent depuis toujours, que partout sur la planète, les enfants se posent ces mêmes questions, et que ces questions, on va se les poser toute la vie. Et que l'important, c'est pas de trouver la réponse, parce que la réponse, elle n'existe pas, c'est de se trouver sa propre réponse, c'est-à-dire de développer une pensée éclairée, une pensée émancipé, ce qu'on pourrait appeler le penser par soi-même. Et ce que je pense quand j'ai 10 ans, j'ai le droit de ne pas penser la même chose à 20 ans, j'ai le droit de ne pas penser la même chose à 40 ans. L'important, c'est que je le pense en toute connaissance de cause.
Alors, vous parliez de l'étonnement propre à l'enfance. C'est vrai aussi que les enfants ont des pensées noires, hein, souvent. D'ailleurs, c'est bien décrit par les psychologues. Les enfants posent beaucoup de questions sur la mort, beaucoup plus que nous quand nous sommes adultes. À la différence d'un psy qui va chercher à rassurer l'enfant, en philosophie, vous n'êtes pas dans une démarche de l'inquiétude, du soin, de... Pas du tout, en fait, quand
non,
vous parlez de la mort.
Alors, on a quand même une responsabilité en tant qu'adulte. Hein, on ne va pas non plus les rendre Schopenhauer et de la déprimer sur le trajet de la condition humaine. Par contre, ce qu'on cherche, c'est qu'ils trouvent des repères pour agir dans le monde. C'est une formule un peu kantienne, mais donner du sens. On est là parce que le monde, effectivement, dans lequel nous grandissons, enfants, adolescents, adultes, vieilles personnes, c'est un monde qui est inquiétant. L'inquiétante étrangeté du monde. Les enfants ne sont évidemment pas justement étrangers à cette prise de conscience de l'étrangeté du monde. La philosophie, elle nous permet de donner du sens.
Mais aussi par rapport grandes questions, le but c'est aussi de leur dire cette question-là, ce problème, ce doute, pourquoi on meurt? Il est là depuis toujours et il va rester. Et fait, pour eux, c'est même rassurant de se dire que c'est un problème qui existe en tant que tel et qui existera toujours.
Mais quand vous dites beaucoup toutes les deux, redonner du sens. Sous-entendu, l'école aurait un peu perdu le lien de sens entre le savoir et l'enfant. L'enfant, il n'arrive plus à l'école à savoir à quoi ça sert d'aller à l'école dans sa propre vie, dans son propre questionnement intérieur.
Moi, j'ai l'impression que, alors, sans vouloir critiquer l'école, hein, mais c'est vrai que peut-être qu'il n'y a pas une place assez grande donnée aux questions des enfants, à la parole de l'enfant, à sa connaissance intuitive des choses. On est encore, j'ai l'impression, dans un modèle de transmission, où les maîtres, les maîtresses vont transmettre, instruire. Et il y a toujours ce modèle du réceptacle, l'enfant qui reçoit, qui doit apprendre par cœur, etc. Et c'est vrai que, comme le dit souvent Edwige, ce serait intéressant d'intégrer du dialogue, en fait, et de la pensée critique dans le moment de l'apprentissage, en fait. Que le moment même où on parle, je ne sais pas, en biologie, de ce que c'est qu'être un vivant, on puisse en parler ensemble, avant de juste transmettre la connaissance. Comme un bloc.
Ouais, comme un bloc et qui, aujourd'hui, cette connaissance considérée par les enfants et par les parents, d'ailleurs, comme juste un outil pour gagner de l'argent plus tard.
Moi, je crois que toutes les disciplines scolaires peuvent faire l'objet d'une interrogation philosophique. Est-ce qu'on peut tirer des leçons du passé quand on est en histoire? Qu'est-ce que c'est qu'être un artiste? Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art quand on est en art? Pourquoi il y a des langues différentes et on ne parle pas la même langue dans le monde? Toutes les disciplines scolaires ont de fait un potentiel philosophique. Et je pense que ce serait extrêmement intéressant de pouvoir intégrer des moments de réflexion philosophique à l'intérieur des disciplines scolaires. Non seulement d'avoir un moment de philosophie en plus un peu de toutes les disciplines dans le cadre de l'enseignement moral et civique, mais presque même surtout qu'on interroge philosophiquement les disciplines scolaires pour permettre effectivement aux élèves d'y avoir peut-être un peu plus de sens. Ouais.
Alors quand même, certains peuvent vous reprocher que c'est de la philosophie de bas étage, de la philosophie de comptoir, parce que les enfants, ça vole pas très haut, c'est toujours rattaché à leur quotidien quand ils essayent d'illustrer leurs propos. Certains peuvent même vous accuser d'une forme d'évangélisation un peu, hein, comme peu importe que la philo soit dévoyée du moment qu'on fait découvrir la philo parce que vous êtes passionné par vos matières. Non?
Alors, moi, je pense qu'il y a deux choses par rapport à ça. Hein. La première, c'est que ce qu'on défend, c'est pas faire de la philosophie de bas étage, c'est de se dire qu'il y a une gradualité, une progressivité à mettre en place avec la philosophie comme on le fait avec toutes les autres matières. Donc, commencer effectivement avec des choses simples, mais cheminer du simple vers le complexe. Et donc, finalement, on parlait des textes tout à l'heure, si on commence la philosophie à l'âge de 5 ans, petit à petit, on va développer des compétences et le moment après d'aborder les textes, tout ça aura fait sens parce qu'il y aura eu une gradualité. Et la deuxième chose, c'est que ce n'est pas de la discussion de bas étage ou du café du commerce, parce qu'en fait, ce qu'on vise aussi dans les ateliers philo, c'est explorer leurs questions, mais en utilisant des habiletés de pensée. C'est extrêmement important, c'est des actes de la pensée qu'on les encourage à mettre en place. Définir un concept, donner des arguments, trouver des présupposés, déconstruire des préjugés,
Mais vous ne parlez pas des grands auteurs.
Mais si
ça
on
arrive,
peut.
Si, ça si, arrive souvent.
D'où l'importance, pour rebondir sur ce que dit Johanna, d'où l'importance de la formation des animateurs. Il ne s'agit pas de s'auto-proclamer animateur d'un atelier philo sans avoir reçu une formation sérieuse. Bien évidemment, on ne peut pas s'auto-proclamer. Et puis, si on peut parler des auteurs, on a entendu le témoignage de Chiara Pastorini qui vient, et moi aussi je viens avec mes marionnettes de philosophes. J'ai la marionnette Socrate, Kant. Alors, on ne leur fait pas un cours comme ça de façon magistrale, mais par contre on peut rebondir sur un propos d'enfant qui résonne avec notre culture philosophique. Et ça, je vous assure, pour faire des ateliers depuis presque 20 ans et toutes les semaines dans toutes les classes du monde et à tous les niveaux, ça arrive très souvent qu'un propos d'enfant résonne avec ce que Kant, ce que dit Descartes. Et à ce moment-là, on peut dire à l'enfant, mais tu sais ce que tu viens de me dire là.
C'est presque aussi bien que Descartes.
Oui, mais alors, si j'ai le temps de raconter juste une anecdote, ça m'est arrivé il n'y a pas très très longtemps. Je fais un atelier de philosophie dans une école à Angers. À la fin de l'atelier, il y a un enfant de 8 ans, il vient me voir et il me fait, tu sais Edwige, je me pose plein de questions philosophiques quand je suis tout seul chez moi. Je dis, ah bon, mais tu te poses quoi comme question? Ben il me fait, souvent je suis assis sur mon lit dans ma chambre et je me demande si je suis pas en train de rêver que je suis assis sur mon lit dans ma chambre. Je lui dis, mais tu sais ça, il y a un philosophe, il s'appelait René Descartes. Et ben son grand livre de philosophie, il commence exactement par la même question. Oui. Puis il est reparti, il était content. Parce que Descartes, il pense comme moi.
Et justement, la séance d'après, ce qu'on peut faire, moi ce que je fais même, c'est d'amener le texte.
Et bien sûr.
D'amener le texte, quelques petites phrases, quelques extraits, il y en a qui sont accessibles. Et là, on lit les débuts des méditations métaphysiques de Descartes et on dit aux enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec Descartes?
Ils sont ravis.
Et après, on explore le texte avec eux, vraiment, ils en sont capables.
7 milliards de voisins, vous aussi, vous êtes capable de nous appeler pour réagir à ce que vous entendez. Philosopher dès l'école primaire, ça peut sembler incongru. 33 1 84 22 71 71. On donne la parole dans quelques instants à un enseignant qui forme des animateurs en philosophie, des enseignants en philosophie pour l'école primaire au Burkina Faso. Dans quelques instants.
7 milliards de voisins.
On est enfant.
C'est l'attitude qui gagne.
Et on donne la parole à une internaute, Hélène, qui est prof de philo en Indonésie et qui a posté ce message sur WhatsApp.
Je suis enseignante de philosophie. J'ai enseigné en France, mais aussi à l'étranger, en Colombie et en Indonésie. Et depuis cette année, j'ai mené un projet de goûter philosophique pour enfants itinérants. Qu'est-ce que les enfants retirent comme bénéfice? Ces ateliers philosophiques, déjà le fait de s'écouter, de prendre la parole, de partager. Parfois, c'est l'occasion de discussion, de débat. Les autres proposent d'autres perspectives. J'ai aussi en tête des événements intéressants parce que dans les lycées français, la question de l'altérité, l'ouverture à la culture, aux langues différentes, les questions de l'amitié prennent d'autres perspectives. Et puis, il y a eu un moment en Colombie, un atelier dans une ONG où deux jeunes filles venant du Venezuela ont pu expliquer aussi les préjugés dont elles étaient victimes. Donc, c'est l'occasion de mettre à plat des réalités, mais en passant par l'abstraction. Et c'est différent de certaines activités dynamiques de groupe qui, elles, vont peut-être traiter des cas particuliers et chercher à régler des conflits. Ici, c'est plutôt une réflexion sur le conflit, l'altérité, la discussion, le dialogue. Et vraiment, j'ai été très surprise par les propositions des enfants, la question de la loyauté, la question aussi parfois sur l'amitié. Est-ce que c'est un besoin humain, l'amitié? Donc voilà, plein de belles expériences à partager.
Voilà, l'amitié, le conflit, la loyauté, qu'est-ce que c'est que l'autre aussi? Comment on peut accepter l'autre dans ses différences? Nous sommes en ligne avec un philosophe au Burkina Faso. Bonjour Évariste Magloire Yogo.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes formateur en nouvelles pratiques de philosophie avec les enfants au Burkina Faso. Vous êtes enseignant-chercheur aussi en sciences sociales à l'université de Ouagadougou. Et vous menez depuis quelques années des expériences à Koudougou, pas très loin de Ouaga, dans des écoles primaires.
Oui Emmanuel, nous sommes un groupe d'enseignants de la ville de Koudougou qui a pratiqué des ateliers de philosophie à l'école primaire avec nos élèves.
Comment cette proposition a été reçue par les enseignants et surtout par les parents?
dans un premier temps, ça, cela fait déjà 5 ans que nous avons entrepris cette démarche pédagogique. Au départ, les enseignants ont été déstabilisés un peu par la redécouverte qu'ils faisaient de leurs élèves. Puis progressivement, ils se sont apprivoisés le cadre. Il s'est formé en quelque sorte une communauté de pensée entre les élèves et l'adulte.
Oui. Comment cela? Quand vous parlez des enseignants, ce sont des instituteurs ou ce sont des enseignants de philosophie qui viennent philosopher avec des élèves?
Non, ce sont des instituteurs qui sont titulaires de classe, donc ils sont au quotidien avec leurs élèves. Et une fois par semaine, ils ont un temps d'atelier de philosophie. Et les sujets à discuter sont choisis librement par les élèves. Les élèves proposent dans un panier une série de questions. Puis on fait un tirage au sort le jour de l'atelier philo.
Oui.
Et la question est soumise au groupe classe. Ce sont des questions telles que qu'est-ce que la mort, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la rencontre. Donc ce sont des questions existentielles, des questions que tous les hommes se posent. Tous les hommes de la Terre et auxquels on n'a pas toujours une réponse unique. Ce sont des questions également pour lesquelles ni les familles ni l'école n'apportent de réponse, ni ne donnent un moment aux enfants pour en parler.
Dans une culture où l'enfant doit surtout respecter l'adulte et n'est pas considéré comme ayant une pensée propre, en tout cas pas dès son enfance, hein, on considère que sa pensée propre va arriver plus tard, du coup, qu'est-ce qu'on vous a dit quoi au démarrage?
Au démarrage, on leur a dit que comme tous les hommes de la Terre, les hommes, les femmes, les vieux, les adultes, et nous aussi les enfants, il y a des questions que nous nous posons et nous allons nous retrouver pour savoir qu'est-ce que chacun pense de la liberté, qu'est-ce que chacun pense de vivre ensemble, qu'est-ce que chacun pense de la solidarité. Et que c'est un moment où il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. C'est un moment scolaire où on ne se pose, on ne se moque pas de l'autre. On n'apprécie pas, ce n'est pas noté. Donc la parole est libre. Et puis on entame une seconde phase qui est une phase de discussion où chacun essaye de comprendre pourquoi l'autre a dit ça, pourquoi l'autre pense comme ça. Donc c'est un temps qui permet aux enfants de se décentrer progressivement et de développer une certaine altérité.
Et vu le contexte scolaire dans votre pays où l'école et les enseignants sont victimes de la violence du conflit, avec des menaces de mort, des enlèvements, des assassinats, la philosophie à l'école, ça apparaît quand même un peu comme une chimère, non?
Non, pas forcément comme une chimère. C'est vrai que le contexte sécuritaire, avec de nombreuses écoles qui sont fermées, et pose le problème de la montée de l'intolérance au niveau du Burkina. Et il y a une certaine perte aussi des valeurs. Et pourtant, le Burkina, c'est une diversité culturelle, c'est une diversité de communautés. Et les ateliers philo apparaissent comme un moment de construction commune, un moment où les enfants développent vis-à-vis de leur père une certaine altérité.
Et est-ce que vous observez sur ces enfants-là dans votre pays une réflexion plus nourrie sur des sujets qui seraient peut-être plus lointains dans d'autres pays, comme la guerre, comme la paix?
Oui, ils en discutent et ils trouvent c'est un espace transitionnel de médiation pour eux. Nous, on s'appuie beaucoup sur la tradition orale africaine à travers les contes, les proverbes, les légendes, et qui véhicule un certain nombre de vertus. Et les enfants, à travers cette littérature orale, arrivent à savoir que même dans les légendes, quelquefois les animaux sont plus solidaires que les hommes.
Et Edwige, restez en ligne. Oui, allez-y, Évariste Magloire-Yogo.
Voilà, il donne des exemples où les hommes ne sont pas toujours bons, où ils sont plus méchants quelquefois que les animaux.
Restez en ligne avec nous, Évariste Magloire-Yogo. Edwige Chirouter, vous avez vu plusieurs expériences sur le continent africain.
Oui, avec la chaire UNESCO, on travaille avec le Bénin, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Cameroun. On travaille avec énormément de pays africains, aussi le Maghreb. Enfin, en fait, on travaille partout dans le monde. Hein. Je reviens de Beyrouth aussi. Je pense que cette demande de philosopher avec les enfants, elle démontre, comme je disais tout à l'heure, à une volonté véritablement politique d'œuvrer pour un monde meilleur. Parce que la philosophie, elle peut contribuer à lutter contre la barbarie. C'est ce que disait déjà Hannah Arendt, qui disait qu'il faut créer des oasis de pensée. Et elle faisait la distinction entre être intelligent, avoir de la culture et de la rationalité, et être capable de penser. Et elle disait que la racine du mal, c'est l'absence de pensée. Donc la philosophie, étant justement une école de pensée, ça peut être un levier, ça peut être une arme pour lutter contre toute forme de dogmatisme, de fanatisme, la barbarie. Et bien sûr que c'est un idéal, c'est peut-être un peu utopique, mais c'est une foi laïque qu'on essaye de porter en tant qu'enseignant ou en tant qu'animateur d'ateliers de philosophie avec les enfants.
Et Évariste Magloire-Yogo, comment est perçu ce type d'initiative au Burkina, je veux dire, par le ministère, par les politiques? C'est un gadget, on regarde ça d'un œil amusé, ou il y a, cela suscite un intérêt dans le chaos actuel?
Alors, le groupe d'enseignants avec lesquels nous travaillons, ils sont apprécient extrêmement ce dispositif. Ce n'est pas un dispositif formel institué au niveau des programmes, mais c'est une activité non scolaire dans du scolaire qui est bien accueillie par les enseignants et qui leur permet de redécouvrir leurs élèves et d'amener leurs élèves à changer de statut, à savoir qu'ils sont capables de produire de la pensée, qu'ils sont des interlocuteurs valables. Et de ce fait, ils participent mieux à la construction de projets collectifs, de projets de groupe.
Oui, des enfants capables de penser, c'est ce que vous venez de dire, Évariste Magloire-Yogo. Je vais vous lire le message d'une auditrice, 80 ans, qui a envoyé ce message via notre standard. Elle est en région parisienne et elle dit « Quand ma grand-mère me demandait si je dormais bien, je répondais que je pensais avant de dormir. Elle pense, disait ma grand-mère, et elle dénigrait le fait que je puisse penser qu'un enfant pense. » Voilà, apparemment, en tout cas, ça a marqué cette auditrice. Je me souviens, au Burkina Faso, Évariste Magloire-Yogo, il y a une quinzaine d'années, il y avait un professeur de philosophie qui, pour protester contre les conditions de travail et les salaires, avait décidé de traverser tout le pays avec un pot de miel et un livre de Socrate. Et je veux dire que ça m'a marqué à vie. Votre pays a quand même sacrément de la ressource.
Oui, c'est vrai que le Burkina est un pays qui, au regard de sa diversité culturelle et religieuse, et arriver à bâtir un socle solide de vivre ensemble. Et ce n'est que ces derniers temps qu'avec la crise sécuritaire que l'on tente d'ébranler un peu de cette interculturalité, cette diversité religieuse qui a toujours marqué le Burkina Faso. Et nous pensons que de tels dispositifs peuvent permettre aux générations futures de grandir en développant un moi universel.
Et de retrouver l'espoir aussi. Hein. Alors, on le comprend bien aujourd'hui dans ce monde en déconstruction de plus en plus complexe, etc. Finalement, on comprend le succès que peut avoir la philosophie, et pas seulement à l'école. Hein. Il y a énormément de livres, de vulgarisation aussi sur la philosophie. Ça fait penser à ce succès fulgurant du développement personnel. Est-ce que pour vous, Edwige Chirouter, le développement personnel, c'est un peu de la philosophie dévoyée, parce qu'on se regarde quand même beaucoup le nombril hein, dans le développement personnel?
Alors pour moi, c'est vraiment, vraiment pas la même chose. C'est-à-dire qu'il faut bien se mettre d'accord sur ce que n'est qu'un atelier de philosophie. C'est pas le café du commerce, on l'a dit tout à l'heure. C'est pas la psychothérapie de groupe non plus. Et moi, ce que je dis souvent en formation ou même aux enfants, c'est que la philosophie, ça apporte pas forcément du bonheur. Ça amène à être libre. C'est pas du tout la même chose. Hein. C'est la mythe de la caverne de Platon. Hein. Pour sortir de la caverne des préjugés, des opinions toutes faites, c'est un chemin qui est difficile, qui est douloureux, mais qui mène à la liberté.
Il n'y a pas que la recherche de l'hédonisme.
Il y a ça. Et puis, en philosophie, il ne s'agit pas de se regarder le nombril. Oui, il s'agit de se tourner vers l'autre. Parce que l'autre, il porte des réponses et l'autre, il peut nous apprendre quelque chose. Et c'est ça le retour des enfants, c'est qu'en écoutant leur père, leurs camarades, ils apprennent des choses. C'est ça vraiment leur témoignage.
Le bilan de ces 10 ans d'atelier de philosophie pour vous, Johanna Hocken, comment vous avez vu des jeunes se redresser physiquement, intellectuellement?
En fait, j'ai l'impression qu'ils se sentent plus légitimes, tout simplement. On a posé le mot de légitimité tout à l'heure, mais il y a vraiment cette idée, et c'est politique, on l'a dit, ils se sentent le droit de penser le monde, le droit d'exprimer leur pensée sur le monde et le droit et en fait l'audace de dialoguer avec l'autre et de rentrer en désaccord. Mmh. Il y a vraiment il y a quelque chose de l'audace intellectuelle qu'on essaie de leur transmettre. Vous avez, soyez courageux, allez-y, pensez, critiquez, raisonnez. Et en fait, il faut s'autoriser à penser avant de penser. Et ça, on ne le fait pas tous.
Évariste Magloire-Yogo, est-ce qu'il y a un souvenir qui vous a particulièrement étonné, une phrase, une réaction d'un enfant, un enfant qui s'est transformé?
Alors, je me souviens en début d'année, au mois de janvier, à l'occasion d'un atelier philo et qui portait sur « Qu'est-ce que la liberté pour toi ?» Il y a un enfant qui nous a dit que la liberté, c'est de ne pas se construire une prison dans sa tête. Mmh.
Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Évariste Magloire-Yogo, au Burkina Faso. Merci à vous, Edwige Chirouter. Vous publiez Atelier de philosophie à partir d'albums de jeunesse. Et merci à vous, Johanna Hocken. La philosophie pour enfants expliquée aux adultes. On aime cette inversion. C'est publié au temps présent. Merci d'être venu. Dans quelques instants, la chronique de Marie-Rose Moreau, parents, enfants d'ici et d'ailleurs.
Ma belle, votre sourire, j'avoue, m'a fait courir. M'accorderiez-vous un instant? Histoire que je vous raconte la suite de notre rencontre, écrite depuis la nuit des temps. Go. Nous allons parler, rire et danser. Mon cœur en rythme, mon rendez-vous. Le creux de draps enlacés.
Ce soir.
Je vous sens sceptique, ma chère, mais sachez que si l'on s'aimait, qu'est-ce qu'on s'aimerait?
Dîner, dîner, shit, coke, millésime, chérie, je n'ai pas de time. Champs-Élysées, by night, bisous, bisous, aïe, believe I can fly. Non, chérie, viens, on fait du sale. Bla bla bla, coin, 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 et tralala, cinéma, cimatré, madame dans tous ses émois. Kamasutra, French, kiss sauvage, nuit de folie, quick, fuck it, ciao, bella, voilà ce que j'ai dans le crâne.
Envie de parler, rire et danser.
Danser.
Nos cœurs en rythme au rendez-vous.
Là.
Peu de draps enlacés.
Ce soir.
Je vous sens pensif, ma chère, pensez-vous que c'est long? Qu'est-ce qu'on s'aimerait? C'est long, s'aimer. Qu'est-ce qu'on s'aimerait? C'est long,
si long, si long.
S'aimer,
ma chère, ma chère.
Qu'est-ce qu'on s'aimerait? C'est long,
si long, si long.
S'aimer,
ma chère.
Qu'est-ce qu'on s'aimerait?
C'est comment?
Ma chère, sentez-vous que si l'on s'aimait, qu'est-ce qu'on s'aimerait? Si l'on s'aimait, qu'est-ce qu'on s'aimerait? Si l'on s'aimait, qu'est-ce qu'on s'aimerait? Si l'on s'aimait, qu'est-ce qu'on s'aimerait?
Si l'on s'aimait, Féfé, Leroy, chez 7 milliards de voisins en direct sur RFI. Et tout de suite, parents, enfants d'ici et d'ailleurs.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs, c'est la chronique de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre. Bonjour Marie-Rose.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes directrice de la revue transculturelle L'Autre. Et pour cette nouvelle série de chroniques consacrée au père, comment être père, ici et ailleurs, deuxième épisode, vous nous avez dit dans une première chronique que pendant longtemps, les papas ne s'occupaient pas des bébés, ne s'occupaient pas du très jeune enfant, parce que c'était de l'ordre de la maternité, du maternage. Maintenant, ils sont beaucoup plus présents. Est-ce que dans le reste du monde, c'est-à-dire en dehors de l'Occident, les papas s'occupent aussi des bébés. Et comment s'en occupent-ils d'ailleurs? Comment ils entrent dans la vie des bébés?
Alors en dehors de l'Europe et des États-Unis, les pères s'occupent très peu des bébés, tant qu'ils ne parlent pas et qu'ils ne marchent pas. Ça, c'est les deux temps importants. Ce sont surtout les mères, les femmes qui s'en occupent au quotidien. Pourtant, même s'ils ne s'en occupent pas directement, s'ils ne changent pas les couches ou s'ils ne s'occupent pas de leur donner à manger au quotidien, ils les observent, ils s'assurent que les rites de protection sont faits et ils s'assurent que les bébés ont ce dont ils ont besoin en survenant aux besoins de la famille et en supportant leurs épouses. Par exemple, ils interviennent quand l'enfant, dans certaines cultures, doit être circoncis. C'est lui, le père, qui organise le rite et la plupart du temps qui porte l'enfant ou l'emmène à l'hôpital quand cette circoncision se fait à l'hôpital.
Donc, à vous entendre, les pères en dehors de l'Occident n'interviendraient que de manière très symbolique. Je ne sais pas si nos auditeurs seraient d'accord, parce que quand on fait des émissions sur les pères, souvent, ils nous parlent vraiment de leur vie quotidienne avec leur enfant petit. C'est assez fréquent.
Oui, alors, bien sûr, il y a des modifications du rôle de père, mais le quotidien n'est pas quelque chose, en tous les cas, qui est sous la responsabilité des pères. Oui. Les pères interviennent surtout dans le lien au groupe, le lien à l'extérieur. Et bien sûr, parfois, ils participent à des moments particuliers, comme par exemple chanter des berceuses. Ça existe, pour l'endormir. Je pense à un très beau film d'Éric Télissotti. Il a fait plusieurs films sur les berceuses et ça a été recueilli dans des familles migrantes en France, des pères du monde entier. Et ils chantent des berceuses de manière très tonique. Mais peut-être aussi qu'ils les chantent devant la caméra, parce que je crois que les pères représentent justement les bébés et les enfants vis-à-vis du monde extérieur. J'ai vu aussi de beaux papas baloutches en Afghanistan qui emmenaient fièrement promener leurs bébés à l'extérieur pendant les jours de fête. Ils mettaient du kohl autour de leurs yeux, de beaux habits et de belles chaussures colorées. Leurs femmes préparaient les bébés qui étaient lavés, parfumés, eux aussi avaient du kohl autour des yeux, et les pères les emmenaient fièrement promener dans le village.
Ça s'appelle parader avec son bébé.
Hein. Ben oui, mais ça s'appelle aussi présenter le bébé au monde extérieur, l'introduire dans le monde extérieur. Et oui, la parade, la promenade, le rôle des pères auprès des bébés dans ces sociétés plus, disons, plus traditionnelles est plus, à mon sens, symbolique que pratique, même s'ils peuvent intervenir pour ça, pour dire non aussi, par exemple. Mais concrètement, le bébé est dans l'espace de la mère jusqu'au moment où il va marcher et parler. Et après, il va progressivement rentrer dans le monde des pères et bien sûr le père va quand même intervenir dans des moments de passage, dans des moments particuliers. Mais pour ses pères comme pour ceux d'ici, on pourrait dire pour eux aussi qu'eux aussi doivent apprendre à devenir père et qu'ils ne naissent pas père, ils le deviennent.
Toute cette série Marie-Rose Moreau sur les pères, être père ici et ailleurs, est à écouter en podcast, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Merci Marie-Rose Moreau. Prochaine chronique, la place du père auprès des garçons. Ça va se compliquer au fil des chroniques.
Alors, on dit quoi ?
Diara Ndiaye vient d'arriver chez les 7 milliards de voisins. Coucou Diara.
Bonjour Emmanuel.
Vous nous faites voyager ce samedi, Diara, dans Alors on dit quoi ?
Oui Emmanuel, direction les États-Unis où le rêve américain, la flexibilité du marché du travail, la croissance ou tout simplement l'aventure attirent chaque année de nombreux jeunes. Chacun trouve une bonne raison de faire le projet de s'y installer.
C'est vrai pour moi égoïste de ma part de rester aux États-Unis avec toute ma connaissance, mon expérience et tous mes diplômes, sans pour autant aller en Afrique, alors que je vois que l'Afrique souffre en fait. On a besoin de développement et tout. Donc mon projet c'est vraiment rentrer en Afrique et apporter la connaissance que j'ai acquise ici pour un développement meilleur en fait.
L'aventure chez Oncle Sam, un petit extrait, on saura tout, samedi.
À 11h10, temps universel.
À très vite, Diara Ndiaye.
Merci Emmanuel.
Et chez nous, lundi, 7 milliards de voisins, je vous propose de partir à la découverte de maisons pas comme les autres, dans les arbres ou sur l'eau. Comment partout dans le monde, les humains s'adaptent à leur environnement pour habiter le monde. Merci à toute l'équipe, Delphine de Dianou, Cécile Lavolo, Romain Dubrac. Vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast ou sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique émissions. Et on se bien sûr sur les réseaux sociaux et on se retrouve en direct lundi. Merci à vous tous les voisins et les voisines.